Je me nomme Jeanne d'Arc. Je suis née en 1412 dans la ville de Domrémy. Je suis la fille de Jacques d'Arc, petite bergère alsacienne. Dès mes 13 ans, des voix célestes me demandent de libérer le royaume de France des Anglois. Le 13 février 1429, je pars de Vaucouleurs avec une petite troupe de partisans pour rejoindre 11 jours plus tard Chinon, où réside le roi. Après cette rencontre, je suis allée libérer Orléans et le miracle s'accomplit le 8 mai 1429. Je suis retournée chercher le roi à Loches pour le faire sacrer à Reims le 17 juillet 1429. Je n'ai jamais versé une goutte de sang avec mon épée. Je suis blessée le 8 septembre 1429 lors de l'attaque de Paris. Capturée par les Bourguignons le 23 mai 1430 et livrée aux Anglois, qui me remettront aux mains de la justice d'Église. Mon procès s'ouvre le 9 janvier 1431 et les chefs d'accusation sont port de l'habit d'homme, tentative de suicide alors que c'est une tentative d'évasion, sorcellerie pour mes visions et refus de soumission à l'Église. J'abjure mes fautes et suis innocenté le 27 mai 1431. Je reprends alors mes habits d'homme. Je suis rejugé le 30 mai 1431 de manière expéditive et jugé coupable de relapse et brûlé sur la place du Vieux Marché à Rouen. En 1456, mon procès est révisé, jugé nul et invalide car entaché de vol, de calomnie et d'iniquité. Je serai béatifié en 1909 par Pie X, puis canonisé en 1920 par Benoît XV.
François Ruggieri, auteur de Jeanne d'Arc le stratagème, a une toute autre version de l'histoire. Nous l'avons rencontré chez lui, à Neuilly, pour qu'il nous la lit. Oui. C'est bon, merci. Bonjour, madame.
Monsieur.
C'est ici.
Bonjour, monsieur.
Ça, les médiévistes sérieux. Georges Duby. Fernand Braudel. Où les climatologues comme Emmanuel de Roy Ladurie, on constate une chose, c'est que dans ces années 1429 où se situent les événements, l'Est de la France subit une famine sans précédent. Les paysans se nourrissent de racines bouillies, il y a des actes de cannibalisme avérés, donc déjà il n'y avait ni moutons et encore moins de troupeaux. S'il y en avait eu, ils auraient été dévorés immédiatement. À ça, il faut ajouter que le territoire est occupé depuis plus de 50 ans par des bandes de soudards de tout poil, dont la principale activité, la principale distraction et le principal mode de paiement était, il faut le dire, c'est affreux, mais c'était le viol. Donc, il y a fort peu de chances qu'il y ait eu en 1429 une quelconque pucelle de 17 ou 18 ans dans la région de Domrémy. C'est affreux à dire, mais c'est la stricte réalité historique. Et si par hasard une jeune fille avait échappé à ce destin funeste, personne ne l'aurait laissée seule dans les champs avec des moutons, c'est évident. Ça, c'est la première raison. Donc déjà, cette histoire de bergère, de moutons, est une imagerie propre au crépuscule du 19e siècle. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que l'idée même que Dieu envoie qui que ce soit pour secourir la bande d'assassins dégénérés qui entourait le malheureux Charles VII à Bourges, à Chinon, à Blois, est totalement ridicule. Ou alors il est aveugle, ou alors Dieu est fou, parce que c'était une vraie bande d'assassins dégénérés entourés. Il faut voir l'entourage, ce que c'était l'entourage de Charles VII. Trémoille, assassin vraiment de la pire espèce. Gilles de Rais, assassin mais inimaginable, c'est le plus grand serial killer d'enfants de toute l'histoire humaine. Alençon ne vaut guère mieux, Lahir, Xintra, il faut voir l'entourage du roi, et qui a aussi servi à l'entourage de la pucelle, ce ne sont que des monstres. tout, mais quand ils sont arrivés pendant la chevauchée, là, avec Novelpont et Philippe d'Orléans, dit Jeanne d'Arc, quand ils sont arrivés à Auxerre, c'est encore dans les annales, dans les archives de la ville, il s'est déclaré Jean, hein. Il n'a pas dit Jeanne, il a dit Jean, Philippe d'Orléans. Il n'a pas dit Philippe, parce que je ne sais même pas s'il s'appelait Philippe, mais ils sont arrivés à l'heure de la fermeture, puisque au coucher du soleil, dans toutes ces villes à cette époque-là, on fermait les portes. Hein. Quand ils sont arrivés précipitamment, il a dit s'appeler Jean, c'est écrit en toutes lettres dans la plupart des bouquins historiques. Mais tout ça dérange pas de toute façon, parce que les gens qui défendent la thèse Jeanne d'Arc, c'est une secte pour moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ça a échappé au rationnel, et comme toutes les sectes, ils aiment pas la réalité, ils aiment que l'interprétation de la réalité. Voilà, faut se situer, c'est un garçon qui est né en 1407, qui est envoyé à Domrémy pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire entre autres qu'il y a des gens de Domrémy qui travaillaient auprès de la reine, il y avait des arcs qui travaillaient à la cour de France, et le village appartenait en propre, depuis Charles V, depuis 1385, à la couronne de France. Donc, Isabeau de Bavière se retrouve avec un bâtard évident, puisqu'elle n'avait quasiment pas vu son mari depuis 2 ans, elle n'avait jamais vu seule, ça n'avait même pas pu être une relation sexuelle furtive comme ça peut arriver. Donc ce bâtard était un bâtard évident. Alors il y a des historiens qui disent ouais, mais on dit que c'était une fille. Non, tout le problème vient du fait que ça soit un bâtard mâle. Donc avec des droits sur la couronne de France, si ça avait été une fille, on l'aurait mise dans un couvent, elle aurait été mariée. Tout l'imbroglio vient du fait que c'est un garçon. Le garçon est envoyé là-bas, il reçoit, comme tous les princes bâtards, une éducation militaire, il apprend le français de la cour, hein, parce que ça c'est une des choses incompréhensibles aussi. Comment ce personnage élevé dans un village lointain, dont les linguistes modernes connaissent le patois, totalement incompréhensible par la cour de France. Il faut savoir qu'en 1418, un Alsacien ne comprenait pas un Breton. Donc voilà ce personnage, il reçoit une éducation, je dirais classique de prince bâtard, on lui apprend à se battre, on lui apprend à être un militaire, et c'est un militaire, toutes ses déclarations, quand on lit les courriers, c'est un militaire arrogant, violent, dominateur. La lettre envoyée, la célèbre lettre envoyée à Bedford, il dit en toutes lettres, je suis chef de guerre, je vous tuerai tous, c'est pas une bergère qui invente au 1429 ce type de langage, c'est un homme violent, élevé pour ça, qui est un très bon cavalier, qui a une petite taille comme son papa Louis d'Orléans, qui sait se battre, qui parle le français, puis qui surtout qui est habitué à être obéi. On dit, on ne comprend pas pourquoi il est obéi par ces hommes qui sont des soudards, violents, etc. Il est obéi pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est de sang royal et qu'à l'époque, c'est déterminant dans les rapports d'autorité. Puis la seconde raison pour laquelle il est obéi, c'est qu'on lui a appris à se faire obéir. Hein. C'est un métier, le système militaire. Et c'est un garçon qui a été élevé dans l'idée de qu'il allait commander un jour quelque chose et donc qui a été élevé comme ça. Et quand on lit les courriers, l'idée que les courriers puissent être envoyés par une bergère pucelle, c'est complètement ridicule. Il faut les lire, les courriers. Je suis chef de guerre, c'est des phrases, hein, telles que « Je suis chef de guerre, je vous tuerai tous si vous ne m'obéissez pas », etc. Un historien honnête et sérieux se contenterait de faire une étude sémantique des courriers. Dans les courriers, il y a la preuve que c'est pas une bergère, hein, parce que tous les courriers, ce n'est que ça. Je suis chef de guerre, je vous tuerai tous, je vous pillerai, votre or sera à nous, il n'y aura aucun survivant. C'est un chef de guerre du 15e siècle. Le voyage de Domrémy à Chinon. Mais n'importe quel historien mal à l'aise, parce que j'en ai parlé l'autre jour avec des historiens qui viennent de publier, là, Philippe Contamine, Bouzy, etc., un dictionnaire sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors, dès qu'on est dans la réalité, ils détestent ça. Bon, d'abord, les historiens sont généralement des intellectuels, des hommes d'études, donc ils préfèrent être dans la pensée, ce qui est pas du tout une critique. Et alors, quand je leur ai dit, mais comment... Une cavalière inexpérimentée a pu parcourir 660 km à cheval de nuit en plein hiver, c'est-à-dire ça fait 11 jours, ce qui fait 60 km par jour, en traversant des rivières, en territoire occupé, les ponts étaient soit détruits, soit gardés, bien sûr, il fallait traverser des rivières à la nage, en plein hiver, on est fin février, l'hiver 1429, selon les climatologues, est très rigoureux. Comment c'est possible? C'est une véritable opération commando. Je ne connais, moi, qu'un seul homme au monde qui a réussi ça, et c'est un cavalier émérite, il s'appelle Jean-Michel Millecamp, mais c'est un homme entraîné qui monte à cheval depuis 25 ans, qui en plus avait un GPS. Ces gens-là n'avaient pas de boussole, ils n'avaient rien pour s'orienter. C'est totalement irréaliste. Alors, quand on leur dit ça, ils bottent en tout, on appelle ça comme ça, botter en touche, voilà. Ils disent oui, mais on ne sait pas, ça, peu importe. D'un seul coup, tout devient peu importe. Je leur dis, mais tous les bouquins d'histoire disent le chemin s'est fait en 11 jours. Que ce soit 10 ou 12, ça ne change rien. Alors immédiatement, oui, mais c'est peut-être 3 semaines, c'est peut-être 1 mois, ça ne change rien. Alors elle parle, Régine Pernoud, elle met 9 jours, 10 nuits hein, pour la course. Alors Régine Pernoud, je lui avais écrit à l'époque, je lui avais demandé, j'aimerais trouver un cavalier qui soit capable de faire les 664 du millimètre dans 9 jours et nanana. Qui donc n'a jamais eu de pucelle, ni de bergère, ni rien, vous imaginez bien, c'est ridicule. En plus, à ça s'ajoute un problème technique, c'est que j'ai parlé avec des armuriers, spécialistes de l'armure du 15e, 16e, 17e siècle. À cause des seins, une femme ne peut pas porter d'armure. L'homme a une masse musculaire sur la poitrine, parce que la poitrine, l'armure repose à la fois sur les épaules, mais ballotte sur les seins, et donc on voit déjà les difficultés qu'ont les femmes qui font de la boxe, par exemple, à se protéger la poitrine. Donc l'idée qu'une femme porte une armure est une idée irréaliste, parce que les seins souffriraient trop, la pointe des seins, dit le téton, souffrirait trop, c'est donc totalement irréaliste. À ça, faut ajouter que quand vous en parlez avec, vous allez au Puy du Fou, vous parlez avec des cavaliers qui portent des armures, il faut 6 ou 7 ans pour pouvoir chevaucher en armure. C'est pas un truc qui s'improvise comme ça en 3 jours. Le roi s'est réfugié parmi ses courtisans. Alors, déjà l'histoire, c'est profondément débile, se dire le roi va recevoir la bergère, etc. Puis quand il l'aperçoit, il se réfugie parmi ses courtisans. Il s'est réfugié parmi ses courtisans parce qu'on lui a vendu, excusez-moi cette expression triviale et moderne, au chausse-pied, une histoire à laquelle il ne croit pas. Ses conseillers l'ont convaincu au moins de la recevoir, enfin de recevoir Philippe d'Orléans jouant le rôle de Jeanne d'Arc. Il faut imaginer la scène. C'est dans la haute salle du château de Chinon qui maintenant est détruite, il reste une cheminée seulement accrochée au mur. Le roi est là, il est sur son, je ne sais pas si c'est un trône ou un siège surélevé. On lui a dit, bon, c'est une bergère, t'inquiète pas, blablabla, blablabla, ça va bien se passer. Et qu'est-ce qui va arriver? Un homme. Il va arriver un jeune homme, un type costaud, pas grand certes, peut-être d'un visage assez féminin parce qu'il devait ressembler, Isabeau de Bavière était petite, elle faisait 1m42, 1m43, mais elle avait un joli visage. Louis d'Orléans était un petit homme, on est absolument sûr que c'était un petit homme. Le frère du roi, on est sûr parce qu'on a encore les métrages du tissu pour faire ses vêtements. Mais Louis d'Orléans avait un très beau visage, donc on voit, il va arriver un garçon avec une belle gueule, assez féminin, pas un gros gabarit style Chabal, le type il est pris de panique, il se dit mais c'est quoi cette histoire, c'est un mec, et donc il court se réfugier parmi ses courtisans, style je veux absolument pas être mêlé à cette affaire. Ah, c'est son demi-frère, oui, au moins son demi-frère, c'est peut-être son frère entier aussi, on sait pas, parce qu'on a toujours des certitudes sur la mère par définition puisqu'elle porte l'enfant, mais... L'histoire d'Orléans est un mensonge stupéfiant. Quand on lit même des historiens johannistes, il ne s'est rien passé à Orléans. Orléans, en 1429, est une ville puissante, peuplée d'à peu près 40 000 habitants, 10 000 hommes en capacité de se battre. La ville est protégée par la Loire, elle est construite sur des fortifications romaines, elle a des provisions de vivres, elle peut résister à un siège au moins d'un an. Mais il n'y a pas de siège du tout, parce que les troupes anglaises envoyées par Bedford sur les bords de la Loire, l'hiver 1428-1429, c'est 2000 à 2500 hommes. Il aurait fallu au moins 50 000 hommes pour envisager d'attaquer cette ville. 2500 hommes qui avaient passé l'hiver dehors, sans nourriture, avec la dysenterie, beaucoup de désertions, parce que la guerre durait depuis presque un siècle, beaucoup d'hommes, beaucoup d'Anglais désertaient, rentraient dans leur pays, rejoignent leur famille. L'idée que 2000 à 2500 hommes puissent assiéger une ville comme Orléans, aussi puissante, est totalement ridicule. L'armée levée par Charles VII avec la fausse monnaie émise par Jacques Coeur et constituée, les historiens ne sont pas d'accord, mais enfin grosso modo c'est 8 à 10 000 hommes, peut-être même plus, enfin disons un petit 10 000 hommes. Quand l'armée arrive à Orléans, donc ce qui s'est passé le 8 mai 1429, il n'y a pas eu une flèche tirée. Les Anglais se sont retrouvés face à une armée française d'à peu près 10 000 hommes, lourdement armés, prêts à en découdre, reposés, ayant passé un hiver au chaud, bien nourris, face à 10 000 hommes bien organisés, bien équipés et prêts à se battre, et que vous avez une maigre troupe de 2 000 hommes, qu'est-ce que vous faites? Vous partez, hein, c'est logique, et ils sont partis. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire s'est enflammée. Donc l'histoire d'Orléans, c'est ce qu'on appellerait, pour employer des termes affreux modernes, un pur travail de communicant. Orléans n'a jamais été assiégé et par ce fait même jamais délivré. Alors les historiens bien sûr évoquent toujours la célèbre bataille des Tournelles, etc. La bataille des Tournelles, c'est rien du tout, c'est une bataille qui a duré une journée. Une petite troupe anglaise s'était réfugiée dans le fortin appelé les Tournelles. Ils ont été assaillis, donc en fin de journée ils se sont rendus, mais je dirais que c'était pour les Anglais une sorte de baroud d'honneur afin de ne pas reculer sans avoir combattu, c'était pour préserver leur honneur, et fallait bien, comme l'opération était de montrer que l'armée était dirigée par Dieu, que Dieu voulait la reconquête du territoire, etc., fallait quand même bien qu'il y ait quelques morts. Ils ne pouvaient pas se contenter d'arriver en disant bah, « il n'y a personne ». Donc il y a eu cette bataille, mais c'était pour montrer qu'il y avait quelque chose, et je pense même, pire encore, je pense qu'il fallait bien que ces hommes qui étaient venus, qui étaient des combattants professionnels, c'était des militaires professionnels, des combattants professionnels, des chevaliers, fallait bien qu'ils viennent, qu'il y ait un peu de, comment dirais-je maintenant, un peu de baston. Il arrive, cette histoire d'Orléans, et comme tout prince, il habite déjà chez Jacques Boucher, ce qu'aucun historien ne conteste. Jacques Boucher, c'était le banquier des Orléans. Il s'installe chez lui, donc comme ça se fait encore maintenant. Donc il arrive là, et ce que fait Jacques Boucher, mais ce qui était une coutume à l'époque, parce que d'abord les filles étaient entièrement soumises à l'autorité parentale, surtout paternelle, mais en plus les rapports sexuels, les mariages bien sûr, mais aussi les rapports sexuels, étaient un rite social de, je dirais, de pas de soumission, mais de bonnes relations. Quand Philippe d'Orléans, plus connu sous le nom de Jeanne d'Arc, arrive à Orléans, il s'installe donc chez Jacques Boucher, le banquier des Orléans, puisque c'était la famille, et d'une manière évidente, il dort avec sa fille qui s'appelait Charlotte. Alors, personne n'était dans le lit, personne ne peut prétendre, selon l'expression consacrée, on ne peut, il n'y a qu'en étant dans le lit avec quelqu'un qu'on sait s'il y a eu relation sexuelle ou pas. Et puis c'est écrit, même Régine Pernoud le dit, il dort avec Charlotte Boucher, la fille du banquier. On peut se dire, ça fait un peu de désordre quand même. Soit c'est une fille, vous avez raison, puis on comprend pas pourquoi il est avec des filles, soit c'est un garçon, et c'est pire. Et ils disent oui, mais c'était pour se tenir chaud, etc. Ce qui était, vous savez, les historiens johannistes, ils sont très très bizarres, hein, c'est vraiment une secte. Alors se tenir chaud, ils disent c'était pour se tenir chaud, c'était des coutumes de l'époque. C'est complètement faux. Les pauvres dormaient ensemble parce que généralement ils habitaient dans des masures exiguës et que tout se passait dans la même pièce, donc ils dormaient par définition dans la même pièce, et ils en profitaient pour se tenir chaud parce que c'était la seule pièce dans laquelle il y avait un âtre et qui diffusait de la chaleur. Bien sûr, là on est chez Jacques Boucher qui est banquier. Alors il y a plusieurs choses qui militent en la défaveur des historiens officiels. La première, c'est que la maison, il y avait de la place. La seconde, c'est qu'étant banquier, il avait de quoi mettre des bûches dans la cheminée. La troisième, c'est qu'on est au bord de la Loire, On est au mois de mai sur les bords de la Loire, c'est un climat tempéré, c'est une région tempérée. Et puis la quatrième, elle est simple, c'est que si un garçon, moi j'ai une fille, si un garçon arrive chez moi, il couche pas avec ma fille parce que, enfin il couche avec ma fille si elle a envie, mais il couche pas avec ma fille parce qu'il a froid. Je lui dis, écoute, même dors avec moi, s'il n'y a pas de place, tu dors dans le salon, je vais te mettre des couvertures, mais c'est ridicule. Les arguments de l'historien soviétique sont ridicules. Mais il y a pire encore. C'est que quand ces hommes partent en campagne, ces hommes se faisaient amener des filles des villages. Et la phrase est célèbre. Le Philippe d'Orléans en question, dit Jeanne d'Arc, disait toujours à l'aïre Xintrail qu'il envoyait recruter les filles en fin de journée, surtout pas les vieilles, disait-il. Alors toujours pareil, les historiens disent, c'était pour se tenir chaud, mais attendez, on est au mois de juin. Alors je sais qu'ils dormaient dehors, mais on est au mois de juin, ils étaient couverts, ils étaient habitués à ça, et on va pas chercher les femmes pour se tenir chaud, ça n'a aucun sens. À la limite, amène-moi des moutons, il y a de la fourrure, mais pas des femmes. Je suis toujours choqué par le caractère sérieux que donnent les historiens officiels à l'épopée johannique. Parce que moi, la vie, c'est que c'était une bande de déconneurs de première catégorie. Le sacre en est la preuve vivante. Parce qu'il faut quand même faire preuve d'un cynisme invraisemblable pour faire ce sacre. 1. Le roi était déjà sacré. 2. Tous les instruments du sacre sont à la basilique Saint-Denis. L'épée de Saint-Louis, la couronne, etc. Tout est à la basilique Saint-Denis. Mais 3. Le Saint-Crème a été porté par Gilles de Rais. Il aurait pu être porté par n'importe qui. Et c'est ma conviction, c'est que je pense que Charles VII et tous les autres étaient une bande de fiefés coquins, mais qui manquaient pas d'humour. Parce que prendre le plus grand pédophile de l'histoire humaine pour porter le Saint-Crème, je pense qu'il faut y penser. Il a été sacré, le jour du sacre, il a 25 ans le jour du sacre, et il est sacré maréchal de France. Ce qui est logique... que le roi se dise, je vais récompenser ce gars qui a quand même fait un bon boulot, même s'il est un peu spécial, il faut bien le reconnaître. Il a fait un excellent travail, je vais le récompenser. Mais de là, à l'envoyer chercher le Saint-Crème, je me dis que c'était quand même une bande de joyeuderie, parce que pour faire ça, je crois qu'il faut n'avoir aucun scrupule, je crois qu'il ne faut surtout pas croire en Dieu, et il faut surtout avoir un goût, une ironie. Il y a une autre chose qui m'a bien sûr interpellé et auquel aucun historien ne peut répondre, bien sûr, c'est l'attaque sur Paris. Parce que l'attaque sur Paris, dans les bouquins d'histoire, elle tient en une page. Mais ça ne doit pas tenir en une page, l'attaque sur Paris. Parce que c'est un truc qui a été préparé, on n'attaque pas une ville comme Paris, comme ça, en se disant, tiens, non, on va attaquer Paris, c'est pas un petit bourg de 150 habitants sans défense. Paris est à l'époque, dans ces années, enfin en 1429, la ville la plus puissante d'Europe. Elle est protégée au sud par les fortifications de Philippe Auguste. Elle est protégée au nord par une partie des fortifications de Philippe Auguste et ensuite les incroyables fortifications faites par Charles V. C'est donc une ville, il y a un double fossé, c'est une ville quasiment imprenable. D'ailleurs, le roi d'Angleterre Henri V, quand il a fait sa razzia sur la France qui s'est terminée par Azincourt, malgré sa victoire d'Azincourt, il a bien pris garde à ne pas venir attaquer Paris. Il était prudent. Donc, Paris est une ville difficile à attaquer à l'époque et donc qui impliquait une préparation. Alors, la question que je pose aux historiens est celle-ci. Ça se passe, c'est donc dans les premiers jours de septembre. L'attaque définitive a eu lieu le 8 septembre. Le sacre a eu lieu le 17 juillet à Reims. Donc voilà une troupe qui arrive, une troupe assez puissante d'à peu près 10 000 hommes, dirigée par Charles VII, qui donc maintenant est sacré roi des Français. Et à sa main droite, il y a l'envoyé du Seigneur, la bergère de Don Rémy. Pourquoi les Parisiens, qui sont des vrais et bons Français, n'ouvrent-ils pas leurs portes? Alors là, les historiens, comme d'habitude, bottent en touche en me disant « Oui, mais il y avait une garnison anglaise. » Non, il n'y avait pas de garnison anglaise. Il y avait quelques centaines d'Anglais qui étaient là. C'est pas ça qui aurait empêché les Parisiens d'ouvrir leurs portes s'ils avaient souhaité. « Oui, mais ils étaient pro-bourguignons. » Bien sûr qu'ils étaient pro-bourguignons parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler des Orléans. Ils les avaient chassés en 1418. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc, on se demande pourquoi ce roi, maintenant sacré devant Dieu et accompagné de la pucelle, les Parisiens n'ouvrent pas leurs portes. Alors, je vais me permettre de vous lire la réponse. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. La réponse, elle est écrite en toutes lettres dans cet ouvrage qui a été écrit à cette époque, qui s'appelle « Le journal d'un bourgeois de Paris ». Alors, le journal d'un bourgeois de Paris, c'est pas une bande dessinée comique. C'est un journal, c'est un document historique de première catégorie qui est cité en permanence par tous les grands historiens, tous les grands médiévistes, y compris ceux qui défendent la légende officielle de Jeanne d'Arc. Mais ceux qui défendent la légende officielle de Jeanne d'Arc, bien sûr, ne disent pas cette phrase-là. Alors, je vais vous le lire, c'est pas facile à lire parce que c'est du vieux français. Donc, à la date du 8 septembre 1429, journal d'un bourgeois de Paris, ils expliquent. Car plusieurs d'entre eux furent navrés pour toute leur vie, avant l'assaut étaient tous sains, mais folles, ne croient jamais tant qu'ils prennent, excusez-moi, c'est du vieux français, pour eux le dit, qui était plein de si grands malheurs et si mal créance que pour le dit d'une créature qui était en forme de femme, avec eux qu'on nommait la pucelle, qui c'était, Dieu seul le sait. Voilà, qui c'était, Dieu seul le sait, c'est la question que pose le journal de Paris, et plus loin, il raconte, on dit, tout le monde savait que c'était mensonge. Donc, pour les Parisiens, déjà à l'époque, personne ne croyait à cette histoire. Personne ne pensait qu'il y avait une pucelle, tout le monde savait que c'était un Orléans. Bon, si vous voulez, la raison pour laquelle Paris ne s'est pas ouvert, c'est que tout le monde savait que c'était un subterfuge, un stratagème. Et d'ailleurs, les termes employés par le personnage un peu plus loin, « je vous tuerai tous », etc., sont très très loin de l'idée compassionnelle qu'on peut se faire du personnage. Ils avaient été chassés parce qu'ils étaient insupportables. Ils étaient, d'abord, ils étaient d'un niveau de moralité qui était en dessous du niveau tolérable, même pour l'époque. D'ailleurs, avec en tête de la bande de débauchés, Isabeau de Bavière, la reine elle-même. Donc il fallait payer ces fêtes permanentes, cette débauche permanente, donc c'était des levées d'impôts permanents, des annexions de biens, des vols, des viols, c'est les Orléans de Paris en 1418 quand ils sont chassés, c'est vraiment une bande de voyous, de bandits, ils sont pas brillants, donc ils sont chassés par les Parisiens, ils se réfugient. Parce que on présente toujours la cour comme réfugiée sur les bords de la Loire à cause des Anglaises. Que déni. Ils sont réfugiés sur les bords de la Loire parce qu'ils ont été chassés de Paris. Ils étaient bien mieux à Paris. Paris était une ville imprenable. Tant qu'ils étaient dans Paris, ils risquaient pas grand-chose sur les bords de la Loire. Bon, Chinon était construite par Philippe, était une forteresse construite par Philippe Auguste. Chinon était à l'époque quasiment imprenable avec ses doubles fortifications. Bon, mais ils n'ont pas été envoyés par les Anglais là-bas. Ils ont été chassés par les Parisiens. En 1422. Quand Henri V meurt, il demande à son frère Bedford de devenir régent de France. Alors Bedford n'est pas un militaire, ce n'est pas un chevalier, c'est un diplomate et un commerçant. Son but, lui, c'est de gérer ça à la paire tranquille. Son but, c'est de créer une harmonie, ce qui est logique en plus, parce que le traité de Troyes prévoit que le roi d'Angleterre gérera la France. Et l'Angleterre, donc, lui, il se considère comme gestionnaire de la France, donc cherche... c'est une puissance occupante, mais il cherche à ce que les choses se passent bien. Donc, avec les Parisiens, ça se passe bien. La preuve, c'est que la garnison, je crois qu'à la Bastille, il y avait pour protéger l'Est de Paris, je crois qu'à la Bastille, il y avait 7 ou 8 Anglais. 7 ou 8 Anglais, c'est ce qui est ridicule. Ce qui veut dire que les Parisiens, c'était une présence symbolique. Les Parisiens entretenaient un bon rapport avec les Anglais et entretenaient aussi un bon rapport avec le duc de Bourgogne, qui était un personnage très puissant, mais aussi plutôt... pacifiste et commerçant par la Seine, il y avait beaucoup d'arrivages de viande, de vin de Bourgogne. Donc les Parisiens, très spontanément, en fonction de leurs intérêts, mais pas que financiers, de leurs intérêts, je dirais, que je qualifierais d'humains, familiaux, c'était effectivement tourné très volontairement, c'est pas une obligation, c'était tourné volontairement vers les Anglais, les Bourguignons, aux dépens des Orléans, qui étaient des personnages exécrables. Martin V est décédé le 20 février 1431, c'est-à-dire la veille de l'ouverture du procès qui a démarré le 21 février. Et le procès, selon les historiens et selon tout le monde dès qu'on lit les minutes, est totalement incompréhensible. Pour une raison idiote, c'est qu'il avait été programmé en se disant « l'Église par Martin V va couvrir l'opération » et hélas, Martin V est décédé, il a été suivi par un pape qui était un pur dominicain, qui ne voulait absolument pas entendre parler de cette histoire de voix, de bergère qui avait des hallucinations, etc. C'est un pur dominicain, c'est-à-dire un clergé élitiste, sa déclaration est simple, « Dieu ne s'adresse qu'à une seule personne sur terre, c'est-à-dire au pape, à moi ». Le procès s'ouvre le 21 février et une femme, une jeune femme d'une vingtaine d'années, arrive à la barre. Cette jeune femme ne connaît ni son nom, ni son âge, dit qu'elle n'a jamais gardé les moutons, ne connaît pas ses parents, dit qu'elle n'a jamais été à Don Rémy, dit qu'elle ne sait pas sur quoi elle va être interrogée, ce qui est fou, parce que vous avez quand même quelqu'un qui est prisonnier depuis un an et qui dit ne pas savoir sur quoi elle va être interrogée. Et puis... pire encore, quand Estivet, le procureur, faute d'arguments, lui dit « Est-ce que vous pouvez réciter le Notre Père ?», cette personne qui est soi-disant élevée dans un sentiment de religiosité profond ne se connaît pas le Notre Père. Alors, dès le premier jour, quand vous lisez les minutes du premier jour, vous dites « La personne qui est jugée n'est pas celle qui a dirigé l'armée ». Parce que effectivement, après Compiègne, Philippe d'Orléans a été, on a trouvé une sortie honorable. Il a bien fallu juger quelqu'un. Ils ont sorti de prison une droit commun, une sorcière, puisque les prisons à l'époque étaient remplies de sorcières, de ceci, de cela. Et dans les minutes du procès, le mot arc, Jeanne d'Arc, n'est pas écrit une seule fois. Les gens, ils ont écrit Jeanne la Pucelle, la Bergère, etc. Le mot arc n'est écrit nulle part. À l'époque, il n'y avait pas de télé, pas de caméra, pas de radio, pas de photo, rien du tout, donc ce n'était pas compliqué. Et ça, c'est pour le premier jour. Et pour ce qui est du supplice, aucun historien ne peut contester ces éléments. La personne a été menée cagoulée au supplice, entourée de 800 hommes d'armes. La seule raison pour laquelle il y avait 800 hommes d'armes autour d'elle, c'était pour éloigner les témoins. Les volets ont été cloués la nuit précédente et le corps ensuite, contrairement aux usages de l'époque, a été jeté dans le fleuve. Le corps, ce qui restait du corps, a été jeté dans la Seine de manière à ce qu'il n'y ait aucune trace. Alors, la raison pour laquelle le personnage arrive cagoulé au bûcher est une raison évidente, c'est que il fallait absolument pas qu'on le reconnaisse. Il fallait pas que des gens dans la foule disent « Non, mais attendez, moi j'étais à Reims, c'est pas la même personne. La personne que j'ai vue à Reims, elle est un tout petit nez tout droit, celle-ci, elle a un nez crochu. » Et l'histoire du procès est particulièrement ridicule, où on dit « Il a été condamné, enfin, elle a été condamnée pour relapse parce qu'elle a repris l'habit d'homme. » Vous êtes au courant de ça? C'est complètement ridicule, parce qu'elle a repris l'habit d'homme parce qu'elle avait peur d'être violée par ses gardiens. Mais honnêtement, le ridicule ne tue pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est le personnage était emprisonné quand même depuis le 25 décembre 1430, donc était emprisonné depuis 6 mois. Si les gardiens avaient eu l'idée de la violer, ça aurait été fait depuis longtemps. Ou de le violer, ça aurait été fait depuis longtemps. La raison pour laquelle il n'a pas été violé, c'est que c'était un homme et qu'apparemment ça n'intéressait pas les gardiens. Et puis surtout, problème plus vaste, s'il suffisait que les femmes s'habillent en hommes pour que le viol disparaisse de la surface de la terre, le problème serait réglé depuis longtemps. Il a fallu l'oublier très rapidement parce que tout le monde savait à l'époque, et ça je le maintiens, mais je veux dire, les mots du pape en 1453, c'est pas des mots, c'est écrit dans ses mémoires. Le journal d'un bourgeois de Paris, etc., je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens, je parle pas dans les campagnes, mais beaucoup de gens pensaient que c'était un stratagème. Pourquoi pas, hein, en plus, mais un stratagème qui avait Dieu pour pivot. Et que donc il fallait l'oublier le plus vite possible, ce qui a été le cas, ça a été oublié. Vous imaginez bien que des conquérants comme Henri IV, Louis XIV ou Napoléon, si ça avait été vrai, ils s'en seraient servis de l'histoire, elle est trop belle. Voilà, donc l'histoire a été oubliée volontairement. Et puis elle a ressurgi au XIXe siècle pour des raisons militaires, des raisons stratégiques, et puis la perte de la Lorraine en 70, hein, c'est mécanique. Si vous voulez, l'histoire, elle fonctionne au XXe siècle pour plusieurs raisons. La première, c'est que plus personne ne monte à cheval, donc personne ne peut se dire « attendez, c'est ridicule ». Plus personne ne manie l'épée ou la lance, donc personne ne peut dire « c'est ridicule ». Et puis, elle fonctionne pour une raison idiote, c'est que c'est un copier-coller de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un issu de milieu populaire, obligatoirement milieu populaire, comme c'est une fille vierge, obligatoirement vierge, qui va faire des choses extraordinaires, par vocation, et quand ces choses seront faites, en récompense, notre Seigneur Jésus-Christ, en récompense du don de ce qu'il avait apporté aux hommes, a été crucifié, et le personnage, en récompense, parce que c'est pas le moindre des paradoxes de l'histoire officielle, c'est qu'en échange de ce qu'elle aurait apporté au pays, elle est quand même supplifiée d'une manière affreuse, qu'est le feu. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un copier-coller, hein, ils ne sont pas cassés la lunette, et c'est pour ça que ça fonctionne.
Interview de François Ruggieri, produite et réalisée par Julien Weiss.